Bonsoir, je vous remercie d'être venu ce soir pour écouter Jean-Roger Soubiran, qui va nous parler donc de l'œuvre du peintre Jean-Roger Sourgin, à l'occasion de la parution du livre aux éditions Le Festin, Jean-Roger Sourgin, peintre d'Osgore et des Landes. Alors, je suis tout particulièrement heureux d'être présent ici ce soir pour introduire la conférence de Jean-Roger Soubiran, parce que c'est un projet qui a une jolie histoire, puisque d'une part, il associe Jean-Roger Soubiran, qui est un professeur d'université, spécialiste du paysage, qui a réalisé de nombreux ouvrages sur ce sujet, qui travaille depuis de nombreuses années sur le paysage des Landes, le paysage des pins. Il se trouve que nous avons déjà eu un projet qui n'a pas pu se faire, mais qui se fera peut-être un jour autour du peintre Auguin. Et grâce à un collectionneur passionné, Vincent Béraud-Sudreau, nous avons pu mettre en œuvre ce projet de livres et aussi d'expositions que je vous convie à aller voir en ce moment même à Dax, au musée de Borda, qui permet de présenter ce peintre qui n'est pas très connu, je crois, en dehors des Landes, mais qui, je crois, et M. Soubiran va le présenter bien évidemment plus longuement que moi, correspond, je crois, pour les Landais, et surtout autour de Dax et d'Osgore, à quelque chose qui constitue véritablement une espèce de paysage mental de cette région, de pins, de dunes et puis aussi d'océans, puisque Sourgin fait partie de ceux qui ont constitué ce qu'on appelait autrefois la colonie, et puis la station, et aujourd'hui bien évidemment la commune d'Osgore. Donc c'est quelqu'un qui, à la fois par sa peinture et aussi par son parcours, représente une histoire d'un territoire qui longtemps a été extrêmement méconnu, voire mal aimé, que sont les Landes. Voilà, donc je n'en dirai pas plus et je laisse la parole à Jean-Roger Soubiran.
Merci. Mesdames, messieurs, bonsoir. Vous m'entendez ? Oui. Bien. Donc, je vous parlerai donc de l'œuvre de Jean-Roger Sourgin. Je vais délaisser sa vie, parce que, en fait, sa vie qui est pourtant un conte de fées et qui mériterait à elle seule un ouvrage, mais on n'aura pas le temps d'évoquer ces questions qui ont déjà été parfois abordées par la critique landaise. En revanche, son style n'a jamais fait l'objet d'aucune étude jusqu'ici. Donc c'est sur ce sujet que j'ai décidé d'articuler mon discours. J'aurais souhaité que des images accompagnent ce texte, mais malheureusement, j'ai appris hier que la salle n'était pas dotée de rétro de vidéoprojecteur, donc j'espère que ce que je vous dirai sera suffisamment évocateur pour imaginer le reste. Donc l'œuvre de Sourgin est recherchée par les amateurs des Landes et du Pays Basque, mais elle est pratiquement inconnue des Bordelais aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas en 1921, comme en témoigne ce texte de Paul Berthelot, qui régnait alors en maître sur la critique bordelaise. C'est un article qu'il avait publié dans La Petite Gironde, relayant en cela une exposition qui avait lancé Sourgin, qui était vraiment un moment fondateur de son œuvre, et qui se tenait à la Feria de Bayonne. Exposition sur le thème de la Lande, ses artistes, ses poètes. Exposition qui avait donc rassemblé à la fois Sourgin, qui avait réuni Sourgin à des poète aussi prestigieux que Francis James, Emmanuel Del Bousquet, Despax, mais également Loïs Labeck, avec lesquels Sourgin entretenait de grands liens d'amitié. Alors voici ce que dit Paul Berthelot. L'originalité de Sourgin, c'est qu'il est une manière d'autodidacte. Il est sorti un jour, tout armé de pinceaux, de cette terre à laquelle il tenait par les racines de son être. Il a travaillé seul, par besoin d'exprimer ce qu'il ressentait, et reployé sur lui-même, sans ambition ni espoir. Et puis des amateurs du pays ont vu par hasard ces pages. Ils ont trouvé une saveur rude, un accent prenant à ces synthèses décoratives, à ces expressions à la fois directes et transposées des lignes farouches ou chantantes du paysage. Aujourd'hui, Sourgin se décide à exposer son œuvre. On a été surpris, conquis. Donc c'est grâce à cet article que la renommée de Sourgin a pulvérisé les frontières du Pays basque pour s'étendre à l'Aquitaine et peu de temps après, un an après, à Paris. Donc je vais passer tout de suite au style de Sourgin. Alors cette œuvre, vous pourrez la voir évidemment dans cet ouvrage qui accompagne une exposition qui se tient à Dax en ce moment et ce jusqu'à la fin du mois de décembre grâce au prêt de la collection exceptionnelle de Vincent Béraud-Sudreau qui est parmi nous ce soir. Inclassable pour la critique contemporaine, Sourgin, tendre et brutal, est un être double, landais et basque, peintre et oiseleur, naturaliste et visionnaire, mystique et païen. Cet autodidacte, en qui la presse salue un nouveau primitif, compose avec la modernité art déco. D'imagier et miniaturiste, il se fait décorateur pour les villas d'Osgore. L'âge d'or de sa production est sa période Nabi, alors que le nom de Maurice Denis lui est à peine connu. Ce poète de la lande solitaire aime les foules bigarrées du Maroc. Il revendique ses racines populaires et marie sa fille à un comte. Il n'est que contraste et paradoxe, et il l'assume pleinement. Il sera donc le poète de l'ambivalence des Landes, qui voit la trahison dans l'apparente douceur de la dune. Car ce chasseur qui vit au rythme des saisons épouse les caprices du temps, le calme et les colères de la nature. Il laisse une œuvre unique aux aspects multiples. Classique, réaliste, impressionniste, symboliste, décoratif, ces adjectifs incompatibles entre eux cohabitent tranquillement dans la fortune critique de Sourgin. Pour achever de semer le trouble, le commerce d'art actuel enrichit ce pot pourri de période nabi ou période bleue pour qualifier la production des années 1925-1935 la plus recherchée. Cette impasse stylistique démontre combien la critique bute devant l'artiste. C'est que cette création est multiple, rebelle aux étiquettes, comme l'homme est pris de liberté. En examinant l'ensemble de son œuvre, on constate que les évolutions ne sont pas linéaires, les influences ne sont pas exclusives, le style n'est jamais systématique. Parmi les critiques qui ont le mieux cerné le peintre dans sa dualité, Godbarge tient le premier rang. À Biarritz en 1924, il déclare « Sourgin brode, stylise, chante, réaliste à ses heures, coloriste à la palette éclatante, parfois il préfère au jeu de la couleur pour la couleur, les songeries de visionnaires, les grisailles délicates, faites de nuances, qu'évoquent en lui certaines heures mélancoliques. » Donc je vais maintenant évoquer Sourgin en tant qu'acteur du style basco-landais. À l'encontre du mythe séduisant fabriqué par les écrivains, Sourgin n'est pas ce primitif inspiré, bon sauvage, surgi de la forêt landaise, qui n'aurait eu pour seul maître que la nature, mais un autodidacte ingénieux qui puise à toute main. À l'enseignement de Lisal à Dax qui l'emmène peindre sur le motif et l'initie au raffinement du japonisme, s'ajoute à Bayonne, autour de ce creuset culturel du musée basque, la fréquentation des artisans du style basque moderne, Godbarge, les frères Gomez, Danglade, Arouet, Vérin, qui adaptent la tradition aux exigences de la mode art déco. Sourgin a vite compris les enjeux du régionalisme artistique, archaïsant et moderniste, qui réalise l'union des contraires. Il figure parmi les premiers à profiter des salles d'exposition qui s'ouvrent d'abord au musée basque, puis à la Chaumière, créé par Gomez pour le Cercle des Tamaris à Biarritz, où le marquis d'Arcang souhaite donner la parole aux artistes. Il assiste au débat qui entoure l'aménagement du style basco-landais à Osgore. Il participe aux manifestations régionalistes, dont les expositions de 1927-1931, au cours desquelles son art se trouve intimement lié aux propositions innovantes de Gomez, Montméjean ou d'Anglade, et qui trouvent un prolongement dans le décor des villas Churruta ou Guernica, à Osgore. Avec Danglade, Sourgin partage une vocation d'imagier. Il a la même force du dessin abréviatif, l'art d'animer les surfaces, et cette sobriété du sculpteur qui improvise la taille directe sur le plâtre. Ces affinités se concrétiseront. Danglade réalise un bas-relief pour la pile d'entrée de la villa rêvée peindre chassée, la villa de Sourgin, et sculpte le linteau de la cheminée du salon. Quant au cerne systématique des troncs et au dessin qui grossit le trait, il convient de le rapprocher du graphisme énergique mis en œuvre dans les bas-reliefs de Danglade, qui renouvelle la tradition du champ-levage. Le dispositif spatial du triptyque qu'affectionne Sourgin appartient aussi au vocabulaire de Danglade et de Gomez. Un bas-relief compartimenté de Danglade orne la cheminée du cercle L'État-Marie à Biarritz, où expose Sourgin en 1924 et 1931, tandis que Gomez conçoit en triptyque la première version aquarellée du Pays basque beau toute l'année, qui se trouve à Bayonne au Musée basque. Dans leur technique sur papier, Sourgin et Gomez ont en commun le cerne léger, les aplats de couleurs vives et le souci de la composition. Notons que plusieurs œuvres de Sourgin ornent les murs de la villa de Gomez à Bayonne. Dans son atelier, Sourgin multiplie les frises de lacs ou de dunes à l'intention des propriétaires d'Osgore. Le décor sur tympan en plein cintre, qui transpose la majesté des fenêtres thermales, est une pratique courante chez les auteurs du style néo-basque. Il s'impose dans le manifeste que constitue le hall d'un syndicat d'initiative en Pays basque, réalisé par Benjamin Gomez, présenté à Paris à l'Exposition internationale des arts décoratifs de 1925. Sourgin reprend la formule dans plusieurs peintures, dont un spectaculaire panneau des Trois Couronnes. À Osgore, Magui Salcedo adopte aussi ce parti. En revanche, Sourgin se démarque de la conception narrative de ses amis qui, dans leur ambition de susciter un art régional moderne, exploitent toutes les ressources du registre folklorique. Nul résigné, nul échassier ne viennent troubler le silence de ses forêts. Nul pêcheur n'anime la solitude de ses étangs ou de ses plages. Ses bergers et bergères n'apparaissent que dans la période tardive. En cela, il ne suit pas les préceptes de Gomez, appliqués par Suzanne Labattu et Magui Salcedo, qui conseillaient de s'inspirer, je cite, « de la faune, des jeux, des coutumes, pour créer le mythe et le style de la petite patrie landaise ». Le mérite de Sourgin est de dégager du paysage seul une singularité landaise qui ne doit rien aux figures emblématiques traditionnelles. Comme Ramiro Arouet, auquel on l'a comparé, pour son style synthétique et ses compositions harmonieuses, Sourgin pratique la gouache sur papier teinté, qu'il traite largement, dans un sens décoratif précis. L'accord blanc et rouge y tient la place essentielle, comme chez Arouet. Dans Osgore au crépuscule peint sur le vif, Sourgin vise l'essentiel, il construit par masse, il entoure les nuages d'un cerne épais et dynamique, évoquant Arouet, avec les Trois Couronnes. Passons maintenant à la mise en œuvre du paysage. Pour la critique, une des réussites de Sourgin résultait de la variété d'un style capable d'accommoder ses impressions sur des pochades et ses méditations sur des compositions décoratives. L'artiste a dépassé son maître Lisal pour aboutir à une expression lyrique. Sourgin invente son métier pour rendre palpables les sensations. Il est intéressant d'observer la manière dont il s'empare progressivement d'un paysage. Le déchiffre, c'est le rendre à lui-même, en convoquant des techniques complémentaires. On trouve en premier lieu petit et moyen format. Je cite Godbarge, « les délicieuses études de plein air, les habiles pochades de notation, toutes prises sur le vif, sous le coup de l'émotion, toutes ayant le charme des choses dues à la sincérité. » Puis la toile moyenne, l'analyse du morceau fouillé, le terrain solide ou sablonneux. Sur ces instantanés, le peintre ne se préoccupe que de la justesse des impressions, ce qui est donné à l'œil et rien de plus. Viennent ensuite les décantations faites de souvenirs dans le silence de l'atelier. Divers dessins souvent rehaussés, variations de composition en quête d'harmonie. Alors Sourgin entre en contact avec un autre type de réalité. Il se détourne du naturalisme, vise les structures profondes, l'essence du paysage. Il a l'intuition immédiate des masses, la transposition décorative de la ligne, l'ampleur du rythme et des intervalles. La page se fait plaque sensible aux impulsions du dedans. L'artiste laisse surgir les accents de l'élémentaire. le dialogue avec les grandes forces naturelles se traduit par les tourbillons et les rythmes. Je cite, « Ces dessins ne sont pas les dessins de tout le monde. Indéniablement, il y a là l'évidente manifestation d'une personnalité que l'on peut définir d'un mot, une griffe », affirme Godbarge. Le graphisme décoratif, les déformations, l'énergie farouche situe ces pages, marquées à l'occasion par la ligne en coup de fouet Art Nouveau, aux confins du symbolisme et de l'expressionnisme. Parfois, Surgin rappelle Spiliart. Comme le célèbre peintre belge, il interroge les bords de la mer en solitaire et projette un songe intérieur sur des pages sauvages et charpentées. Courbes exaspérées, rythmes convulsés, inquiétudes sont comparables. Longuement méditée, la toile exécutée en atelier est l'aboutissement de tous ces exercices inspirés. En même temps que le spectacle se simplifie et s'accuse avec plus de force, les colorations s'apaisent, évoluant dans les grisailles et les camailleux. Cette prise de possession de la nature assure la profondeur du sentiment. Il s'agit d'incarner plus que de représenter. Résumer, généraliser, tel est l'objectif reflété par l'impersonnalité des sujets. Mes tableaux n'ont pas de titre, ce sont des synthèses de lignes et d'impressions, déclare Surgin, qui ne date presque jamais ses œuvres, dans un souci d'intemporalité. Aussi tous ces étangs inlassablement répétés sont-ils interchangeables. Dans ses compositions décoratives, l'artiste recrée l'étang du rêve, la dune idéale. Un univers imaginaire recouvre les données réelles. Je vais maintenant évoquer le chasseur d'éphémères. Rêver, peindre, chasser, la devise solitaire de Surgin, qui définit un art de vivre, sous-tend aussi un art de peindre. Elle comporte autant d'échelons d'un programme presque systématique. Dans un poème à Surgin, chasseur et peintre, Francis James souligne la complémentarité des activités pratiquées par l'artiste, dont il fait tel Orphée, un oiseleur inspiré. Rappelons que Francis James était un fin connaisseur, familier de l'œuvre de Gauguin, Carrière, Maurice Denis, Odilon Redon. Le soutien du cygne d'Asparène fut précieux aux artistes du Sud-Ouest, comme Arouet, Lacoste ou Sierzinski. Hanté par la nostalgie de l'unité perdue, Surgin qui se coule dans les flux de la nature s'identifie aux oiseaux dont il parle la langue primitive. Comme eux, nouvel Icare, Surgin rêve de s'élancer dans le ciel pour explorer des espaces infinis. Car ce chasseur d'alouettes est aussi chasseur d'images, chasseur d'éphémères, comme le décèle Jean Grimaud. Je cite « Braconnier, Surgin vivait dans les Landes sa libre existence. Quand les palombes passaient ou les alouettes, il savait où poser les gluaux et tendre les filets. Mais on a tort de croire que le chasseur à l'affût épie seulement le frôlement d'ailes ou le bris de la feuille sèche sous la patte feutrée. Ce qu'il guette de ses yeux bridés, c'est aussi l'éveil d'une clairière qui se croit solitaire, l'émoi d'un lac lorsque s'y enfonce l'agonie du jour, le chuchotement des pins oscillants à l'œuvre où les saisit l'effroi de la nuit qui monte. Ainsi, Surgin confesse sa prédilection pour l'instant capté. Ça et là de petites maquettes, sortes d'esquisses de voyage, notations rapides ayant le charme et la sûreté de l'instantané, de l'heure instable, fixée furtivement, dit Godbarge. L'ensemble s'érige en une esthétique du fragment, où s'exprime une philosophie et une extraordinaire sensation de vivre. Sur chaque panneau s'enchasse un instant de nature. Leur juxtaposition recrée l'unité d'un univers morcelé et mouvant qui rejoint une conception presque abstraite du paysage. Ce monde recréé par l'élémentaire, à partir de petits bouts, renvoie à l'image d'un tout disparu. Peu de choses, du sable et de l'eau, la belle affaire, et avec ces deux éléments composer un tout, note Arkel. Pour son schématisme radical et son audace chromatique, Osgore au crépuscule évoque « Lac de montagne » de Hotler. Je vais maintenant parler des panoramas et des triptyques. les panoramas offrant une dilatation spatiale pour une jouissance stéréoscopique complète avec les triptyques cette saisie contrastée du paysage chez Sourgin. L'artiste recherche une autre manière de transcrire la nature et d'aborder l'espace. L'étirement horizontal des panneaux, taillé sur mesure, fait éprouver la sensation d'étendue que procure la marche dans le sable. Une frise japonisante de 1920 unit au mouvement de la dune le rythme musical des pins. La verticalité se décline en troncs solitaires, alternant avec duo et trio d'arbres, évoquant les rectilignes colonnades du poète Loïs Labeck. Derrière ce rideau de pin qui la met en scène et l'éloigne, la dune tellurique ondule, reptilienne. Vers la barre à Bayonne, c'est le titre de notre tableau, combine le cintre au panorama. Le contraste des aplats crée l'animation de la page. Au loin, la mer d'un bleu paisible ouvre les grands abîmes des espaces et des durées dont parle Pierre Loti. Tout à la joie de la couleur et de la lumière, Sourgin retrouve la saveur des imagiers et l'ambiance de certaines toiles nabi. Le triptyque offre un champ fertile en invention. Par la fragmentation, Sourgin cherche le point de vue révélateur. En jouant sur le découpage, il crée une confusion des espaces qui excite l'œil et l'imagination. Cet intérêt pour la création de nouveaux espaces suscite une nouvelle lecture du monde où s'affine l'interprétation de la lande. Sourgin a-t-il connu le dispositif cinétique mis en œuvre par Julien Calvé dans « Landes de Gascogne », le matin, l'après-midi, le soir, 1913, l'œuvre se trouve à Bordeaux, au cercle de l'Automobile Club. Défi destiné à faire vivre au spectateur la sensation du temps qui passe par l'intermédiaire d'une image fixe. On retiendra que la pratique du triptyque, accordée à la sensibilité fin de siècle pour ses connotations sacrées, a connu un regain de faveur depuis 1900, et que cette division spatiale a été ensuite largement exploitée par les décorateurs. Floutier, un peintre de Saint-Jean-de-Luz, y souscrit notamment pour un panorama de Saint-Jean-de-Luz dont la baie s'encadre de façon arbitraire entre la maison de l'Infante et la maison de Louis XIV, rappelant les montages intellectuels des védutistes. Je vais maintenant évoquer le japonisme et les nabis. Le japonisme, source majeure des nabis, est une autre caractéristique du style de l'artiste. Format étiré, cerne, aplat, arabesque, asymétrie, horizon remonté, suites et séries, constituent d'incontestables références à ce mouvement qui suscite toujours un fort engouement au début du XXe siècle. Formé par Lisal, dont une part de la production est marquée par le très japonisant Henri Rivière, Sourgin ne pouvait ignorer le filtre oriental projeté sur le lac d'Osgore par les écrivains. Maxime Leroy souligne, après Rosny, je cite, « Ce mystérieux fond du lac auquel une dune qui ressemble vaguement au Fujiyama confère le charme d'une imprévue estampe japonaise. » Rappelons que Sourgin baigne dans le milieu cultivé des décorateurs Gomez d'Anglade, abonné aux revues L'Art décoratif, Art et décoration, L'Art et les artistes, etc., qui véhiculent alors le goût japonais. L'admiration portée à Francis Auburtin, inféodé à Hokusai, a pu laisser quelques traces dans l'art du peintre landais. L'étirement des bandeaux de Sourgin, pratiqué par Auburtin, rappelle les rouleaux des peintres taoïstes, déployant de puissants schémas de composition. Célébré par Sourgin, le pin est un motif privilégié, avec le sapin, de la peinture sino-japonaise. Soir sur l'étang de Léon, vers 1929, dont l'art des ombres chinoises, les rapports chromatiques, les découpes synthétiques rappelle Crépuscule 1892 de Charles Guillou, musée d'Orsay, partage avec Bateau rentrant à Tsukudajima vers 1810 de Masayuki Shinsai la sinuosité des nuages mouvants. Dans un plat, la symétrie recherchée, le balancement des branches où se suspend le croissant de lune, le raffinement lilas du ciel révèle tout l'humour poétique du Japon, évoquant telle estampe d'Utagawa Kuniyoshi. La même découpe hardie du cadrage se retrouve dans l'océan Osgore, appartenant à une série. Telles des langues sortant de la gueule d'un monstre marin, les vagues lèchent goulûment le sable. L'horizon remonté ajoute l'imprévu d'un espace japonisant. Ici s'impose la comparaison avec L'aveuse à Étretat, 1899, de Félix Vallotton, pour le dépouillement voulu, le cadrage, l'aplatissement des surfaces, le cerne blanc et ondulant de l'écume. Ces préoccupations synthétiques ont suscité récemment un amalgame avec l'esthétique des nabis. Toutefois, hormis le flagrant décalage chronologique, une différence de nature sépare le peintre landais de la conception spatiale des nabis. Surgin ne renonce presque jamais à la perspective traditionnelle répudiée par les nabis au nom du concept de la surface plane. Contrairement à Maurice Denis et à ses amis qui exaltent la radicalité des aplats, Surgin se plaît à creuser l'espace, à faire fuir l'horizon en dégradant les valeurs. Mais il se rapproche d'eux par le cerne, un coloris délicat, la pratique des confettis pointillistes sur certaines parties de la toile, l'élégance du rythme, la recherche harmonique. Étant landais, qui se trouve au musée de Dax, en fait à la caisse d'épargne de Dax, qui date de 1931, est un bon exemple de ces vastes toiles décoratives qui ont assuré son succès au salon. Alors évoquons maintenant Surgin, peintre de l'âme, du paysage. Mais il existe aussi un versant de Surgin qui flirte avec le symbolisme finissant. En 1931, Cyrier de Villers, qui dit entrer en plein rêve dans l'atelier de l'artiste, remarque, je cite, « Il n'est pas sans rappeler le grand Puvis, Auburtin, René Ménard, Osbert, auquel pourtant il ne doit rien. » Surgin avouera avoir écouté le grand peintre Auburtin, venu dans les Landes, porter la leçon de sérénité de son maître, Puvis de Chavannes. Cet idéalisme où perdure, comme chez Ménard ou Flandrin, la tradition du paysage de style, est suggéré par la critique. Marcel Held évoque la probité sereine des classiques du paysage, tandis que Bruchard note « Ce sont vraiment des paysages antiques que M. Surgin a retrouvés sur cette côte landaise. Ce sont des fresques que la nature a dessinées sous un ciel plein d'un rêve. » Plusieurs éléments rapprochent Surgin d'Auburtin. Des sites d'une belle ordonnance de lignes, le retour au rythme naturel, aux courbes, à une scansion musicale de l'espace. Dans ses modulations monochromes, Surgin se laisse aller à son tempérament en réalisant, comme Auburtin, des toiles aux ondulations mélodieuses. Voici maintenant, cousin des intimistes, Matin bleu, qui, comme chez Ménard, va se perdre en une étonnante profondeur. Dans ce vague des sensations, le contour nous échappe. Voilé par le brouillard, la rive opposée ne se laisse pas aborder. La lumière directe la blesse. Le lac d'Osgore est une image brouillée. L'effacement des rives gouverne une confidence décentrée. Aucune tension ne vient animer ce paysage. L'horizon abolit les limites géographiques. Surgin amortit l'éclat de la fête osgorienne à laquelle il est pourtant convié. Au lieu de civiliser le lac, il tend à en accentuer la solitude. Sa vision nostalgique contredit la réalité de la cité-parc aménagée par les architectes à partir de 1925. « Je veux que mon art soit un art de suggestion », confie le peintre. Sérénité, dont le titre est un poncif des symbolistes, se rapproche par le chromatisme et le climat vespéral de Charles-Marie Dulac. Avec « Étang au crépuscule », l'artiste trouve la séduction dans l'indécis, un paysage très fondu, délicat, conçu dans ces camailleux où les valeurs dominent la nuance et où l'accord se produit surtout par les tons. Gamme bleutée, nocturne, qui rejoint les bleuines de Lévis d'Urmer. Constellée par les nénuphars, l'eau qui rêve contribue à produire un effet hypnotique. Pour Surgin, le songe tient parfois lieu de réalité. Avec Sourgin, la couleur bleue devient la présence spirituelle qui confère aux teintes leur symbolisme lyrique. Au-delà du simple agrément visuel, le bleu est le tremplin d'un surnaturalisme mystique, comme dans la génération symboliste des Osbert, Lévi Durmer, Charles Guillou, Maurice Chabat, etc., pénétrés des harmonies bleues de Whistler. C'est désormais l'âme qui envahit le paysage. Notons surtout que chez Sourgin, ce bleu récurrent est la couleur privilégiée du groupe contemplatif des écrivains d'Osgore, réunis sur l'étang bleu dans le roman « Sous les pins tranquilles », et que la première villa édifiée à Osgore est la pierre bleue de Maxime Leroy, référence à la pierre philosophale. Par son obsession du bleu, Sourgin réalise une peinture affective où le ciel possède une place importante car il est l'organe du sentiment. Il roule des nuages roses au-dessus d'un désert de dunes qui moutonne à l'infini. À la stabilité des terrains, Sourgin oppose la course des cumulus dont il souligne, comme Ménard, les volutes décoratives. Cette vogue nuagiste, systématisée chez Ménard, se répand ensuite dans la peinture art déco, comme en témoigne d'ailleurs une œuvre de Jean Dupas qui avait été offerte au musée de Bordeaux. Elle trouve aussi un écho aux Amis des Arts de Bordeaux, où Casaubon expose en 1922 le cumulus et Guait en 1928 le nuage sur la lande. Alors je terminerai en parlant du lac d'Osgore. C'est la moindre des choses si on évoque Sourgin, bien évidemment. Mais c'est le seul élément du triptyque thématique que j'évoquerai ce soir. Tout un pan de l'œuvre de Sourgin est un poème élégiaque avec ses séries d'étangs nostalgiques, La Prade, Léon, Pinsol, Irieux, etc., offrant le sentiment d'une beauté fragile à retenir. Mais sur ce chapelet d'étangs règne sans partage le lac marin d'Osgore, l'archétype des tableaux de Sourgin. Le lac d'Osgore est au début du XXe siècle au cœur des préoccupations esthétiques des écrivains qui s'installent sur ses rives en bons sauvages policés et en font le cadre de leurs romans. La faiblesse humaine et Sous les pins tranquilles de Paul Marguerite débute par une description du lac. Suivant l'heure ou la saison, le lac est japonais, scandinave ou canadien, reconnaît Maxime Leroy, qui ajoute son essence et dans cette diversité. En s'installant dans la cité-parc en 1925, Sourgin fait du lac son domaine privilégié. Dans la complémentarité de l'eau et des pins, érigés en système, l'artiste devance les prescriptions de Maxime Leroy. Je cite « Le lac a besoin de la forêt pour nous apparaître dans son équilibre et sa grâce. » Le lac d'Osgore, inlassablement répété, dans un permanent désir de fusion, est conçu comme une scène de théâtre avec praticable que Sourgin modèle au gré de sa fantaisie. Les pins sont les notes d'une portée dont il modifie la position et les groupements à l'infini. L'horizontalité de l'eau équilibre l'élan vertical des troncs. Aucune présence humaine ne vient troubler cette étrange impression de silence et d'éternel repos. Parfois des barques vides ajoutent une notion d'absence. La douceur et la souplesse des courbes de la rive opposée ont la sensualité d'une échine que le peintre ne se lasse pas de caresser. Amante idéale, le lac est sa muse, paysage et personnage. La brume qui l'enveloppe empêche tout rapprochement, tient à distance le spectateur. Son essence est d'être interdit, transparent, mais impénétrable. À Osgore, l'avenir est un souvenir. Le peintre regarde en arrière, se regarde dans le miroir limpide. Ce regret de l'âge d'or perdu entrelace notre mythe. On notera le motif récurrent de la chute du pin et son reflet intact à la surface de l'eau. Cette image réflexive allégorise la mort tragique de Narcisse. Comme Narcisse, Sourgin cherche à se posséder. Le peintre cherche à faire parler le soi qui est de l'autre côté du miroir aquatique. Ainsi, la contemplation méditative du lac et recherche par Sourgin d'une définition de son art et de son être. Le lac est une quête du sens. Au cœur de la création de Sourgin, le lac d'Osgore, horizon tranquille et vague, qui tend à l'artiste le miroir de son enfermement, est pourtant appelé à se renouveler et à se poursuivre. La réussite de Sourgin est d'avoir suscité des images intemporelles, fruits du rêve et de l'imagination, d'avoir su transcender un motif en vision. Je vous remercie de votre patience.